Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une pièce soviétique, et je dis bien soviétique, c'est-à-dire une pièce qui a eu un succès énorme en URSS, qui a été jouée en France trois reprises. Cette pièce, c'est La Quadrature du Cercle de Valentin Kataïev. Qui était Kataïev ? Kataïev, il est né en 1897 à Odessa. C'est un fils d'instituteur, donc il a eu une enfance relativement protégée. En 1918, il a participé à la guerre civile et à partir de 1922, il va s'installer à Moscou. Il a écrit plusieurs romans qui ont été traduits en français, des romans assez réussis, intéressants, notamment Au loin, une voile. Et puis, en 1928, au théâtre d'art de Moscou, c'est-à-dire le théâtre qui a été fondé par Stanislavski et qui s'est fait connaître en créant la plupart des pièces de Tchekhov. En 1928, est créé donc au théâtre d'art de Moscou La Quadrature du Cercle, un succès phénoménal. Cette pièce sera reprise par la suite après la Seconde Guerre mondiale, et elle a été reprise aussi dans les derniers temps du régime soviétique. Et si vous me permettez d'évoquer un souvenir personnel, j'étais en URSS, c'était dans les années 82, 83 ou 84, je ne sais plus très bien, et une troupe a joué La Quadrature du Cercle, les billets se sont arrachés. C'est donc peut-être une pièce qui, pour les Russes, pour les Soviétiques, voulait dire quelque chose. Mais elle a été aussi jouée en France, en 1931, au théâtre L'Atelier, dirigé par Charles Dullin, en 1949, au théâtre de la Huchette. Alors, de quoi s'agit-il ? Pour bien saisir le sens de la pièce, il faut penser à la situation des soviétiques ordinaires dans les villes. Et surtout, à cette chose qui pour nous paraît incroyable, les appartements communautaires. Les appartements communautaires, c'était des appartements qui avaient été réquisitionnés, qui avaient été enlevés à leurs propriétaires, généralement des nobles, et des gens sont assis, parfois une famille entière, dans deux petites pièces, avec une cuisine commune, avec des toilettes communes, avec une salle d'eau, quand il y en avait une, commune. Et on sait, par ailleurs, qu'en réalité, cette vie dans les appartements communautaires était un véritable enfer. Je vous signale au passage que les appartements communautaires n'ont pas totalement disparu de Russie. Il y en a encore à Moscou et ailleurs. Mais en général, les gens, actuellement, ont au moins une pièce à leur disposition, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et là, nous allons pénétrer dans un appartement, dans une chambre qui fait partie d'un appartement communautaire, et cette chambre est occupée par deux jeunes gens. Tous les deux sont membres des jeunesses communistes, des komsomols. C'est Vasya et Abram. Vasya pour Vassili. Et voilà, on découvre dans cette pièce où il n'y a pas de meubles, où c'est un désordre savamment désorganisé. Dans cette pièce, on découvre rapidement que les deux habitants, Abraham et Vasya, se sont tous les deux mariés. Ah. Mais ils n'ont pas osé le dire à leur compagnon de chambre, si je puis dire. Enfin, mariés. Et ça aussi, c'est un trait significatif de l'époque soviétique. Ils ne sont pas vraiment. Enfin, ils se sont mariés légalement, mais à l'époque, on ne disait pas se marier, on disait se faire enregistrer. C'est-à-dire, il suffisait que deux personnes aillent dans le bureau d'enregistrement, le bureau d'état civil d'enregistrement, déclarent qu'ils voulaient être mari et femme, et on les déclarait mari et femme. Il n'était pas question, bien sûr, surtout pour des membres des jeunesses communistes, il n'était pas question de passer par l'Église. Alors la question qui va se poser, c'est que brusquement, dans cette pièce qui n'est pas très grande, vont être obligés de cohabiter quatre personnes, les deux occupants d'origine et leurs deux nouvelles épouses. Alors, évidemment, pour nous, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Pour les Russes, ça avait énormément de signification. Et alors, voici le début de la pièce. Alors, le début de la pièce, c'est Vasya qui entre et avec sa toute nouvelle épouse, Ludmila. Vasya. Par ici, Ludmilochka. Par ici, fais attention, ne te perds pas dans le corridor. Aïe! Ma robe s'est accrochée à quelque chose. C'est la bicyclette. Tiens-toi après moi. Oh, mon petit chat, tu n'as pas honte. Un corridor de 2 km et pas la moindre petite lampe. Elle a grillé la semaine dernière. Avec 90 roubles par mois, tu n'as pas encore pu en acheter une autre? Ça ne m'est pas venu à l'idée. Ah, ne te cogne pas contre l'armoire. Oh, je n'ai jamais une minute à moi. Je travaille toute la journée. Le soir, je prépare mes examens. Entre, n'aie pas peur. Ah, tu n'as encore eu personne pour te dresser. Entends un peu, mon petit mari. C'est moi qui vais m'occuper de toi à présent. Parfait, vas-y, embauche-moi. C'est bien pour ça que nous sommes faits enregistrer. Attends, 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 attends. Attends, j'allume la chambre. La chambre peut aller, ça manque seulement un peu de meubles. Je suis curieuse de voir comment tu es installée. Zut, je trouve pas le communiste. Ah! Abraham! Tu es là? Personne. Comment? Est-ce que par hasard, tu n'habites pas seule? Ah! J'avais oublié de te prévenir. Oh, Abraham, c'est un vrai copain. Ne t'inquiète pas, Ludmilochka. Alors, vous habitez à deux ici? Mais merci bien. Et peut-être que par-dessus le marché, le camarade lui aussi est marié. Qui? Abraham marié, lui, mais c'est un célibataire inoxydable. Et il sait que nous nous sommes mariés? Allons, ne t'emballe pas. Non, non, il ne le sait pas. Mais ça n'a pas d'importance. Il va être tout content, tu vas voir, il va danser de joie. Oh, Vasya. Mais c'est la pure vérité. Il va venir. Immédiatement, je vais tout lui raconter. Ta 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 ta. Voilà, je me suis marié. Il n'y a pas de quoi en faire des montagnes. Allons, Lyudmilochka, ne t'affole pas. En général, on ne voit pas à la maison de toute la journée. Mais où est ce commutateur? Il ne rentre que pour coucher. Alors, on finira bien par s'arranger d'une façon ou de l'autre. Ah, ça y est. Il allume. Évidemment, on ne peut pas dire que ce soit très chic. C'est surtout que je manque un peu de meubles, tu comprends? Eh bien, qu'en dis-tu, Ludmilotchka? C'est exactement une écurie à cochon et une glacière. Mais c'est parce que les fenêtres ne sont pas mastiquées. Allons, Ludmila, tu ne t'es pas allé à la panique. On mastiquera les fenêtres, on achètera une ampoule pour le corridor, on balayera le plancher, tout ira à merveille. Et vous habitez à deux dans cette écurie. Sur quoi couchez-vous? Ah, ben voilà, moi, sur cet ottomane, lui, sur le banc. C'est un bar très commode, tu sais. Il vient des boulevards. Ne prends pas cet air désespéré. Tu voudrais peut-être que je fasse marcher le haut-parleur, un haut-parleur de ma propre construction. Il reçoit tous les postes du monde, on entend Berlin. Ludmilotska, pourquoi ne dis-tu rien? Tu ne veux pas parler? Avec 90 roubles par mois, il me semble que tu pourrais t'installer un peu mieux. Où est la couverture? Il n'y en a pas. Avec quoi est-ce que tu te couvres? Avec mon pardessus, il est ouatiné. C'est ta tête qui est ouatinée. C'est écœurant, des choses pareilles. Lyon-Milachka, ils sont deux à se partager un oreiller qu'on n'ose même pas prendre avec des pincettes. Et comment couchez-vous, toi et ton camarade? Comme ça, à tour de rôle. Un jour, je me mets sur l'oreiller, lui sur Trotsky et ce qui sert d'oreiller sur le banc. Et le jour suivant, c'est lui qui se met sur l'oreiller, moi sur Trotsky. Et partout, une saleté. Une étable, ni plus ni moins, c'est pas possible que vous n'avez pas balayé la chambre toute l'année. Quel tas d'ordures! Attends un peu, mon petit mari. Le lit, ici, la table, là, ici, une chaise, bois. Ici, un tapis, ici, une étagère. Parfait. Voilà une véritable femme d'intérieur, une compagne pour la vie, juste ce qu'il me faut. Ici, les assiettes. Ici, le rideau, oh, un rideau, c'est peut-être superflu, c'est petit bourgeois. Quoi, si c'est petit bourgeois, il ne fallait pas te faire enregistrer avec moi. Tu ferais mieux de te taire. Ici, le buffet pour la vaisselle, ah. Attends, je file chez ma sœur, je vais apporter quelque chose, c'est vrai, véritablement impossible de passer la nuit dans une écurie pareille. As-tu un balai? Non. Trouve-en un, tu as compris? Que tout soit balayé avant mon retour. Bien. Mon petit chat, tu m'aimes? À 100%. Alors, fais-moi un petit béco sur le nez. Ma petite Ludmila. Que le plancher brille à mon retour. Au revoir, mon petit mari. Sorte, Ludmila. Et Vasya, arrive une jeune femme qui s'appelle Tonya. Elle entre, elle a deux paquets de livres à la main. Elle fait partie aussi des jeunesses communistes. Tonya, Abraham, tu es là? Il n'est pas rentré. Kuznetsova. C'est toi. Oh, voilà si longtemps. Vasya, salut.
Речка движется и не движется.
En fait, on va découvrir assez vite que Tonia, la jeune femme, a tout simplement choisi pour époux le compagnon de chambre de Vasya Abram. On découvre en même temps que Tonia, la jeune femme, et Vasya, le nouveau marié, se sont connus quelques années auparavant. Alors, bien sûr, il va arriver un moment où les deux occupants de la chambre vont bien être obligés de s'avouer qu'ils se sont mariés l'un et l'autre, chacun de son côté. On verra apparaître aussi un personnage qui, pour les soviétiques, voulait dire quelque chose. C'était ce personnage, c'est un organisateur du parti qui s'appelle Flaville, qui prend la situation, lui, avec beaucoup de philosophie. Il y a aussi, comme personnage assez pittoresque dans la pièce, un poète. À l'époque, il y avait des tas de poètes dits prolétariens, enfin bon, je vous passe tous les qualificatifs dont on pouvait les affubler. Et ce poète prolétarien, qui écrit des vers de Mirliton, s'appelle Tchernozium. Tchernozium, pour mémoire, c'est tout simplement la terre très fertile d'Ukraine. Et arrive bien sûr le moment fatidique où les deux couples vont être obligés de cohabiter. On peut se douter que cela ne va pas sans heurts ni grincement de dents. Alors, on arrive toujours rapidement aux disputes. On va reprendre le couple du début, Vasya et Lyudmila. Première dispute. Lyudmila, veux-tu un peu de lait ? Non, je n'en veux pas. Bois-en tout de même. Tu deviendras grassouillé. Moi, je ne veux pas devenir grassouillé. Alors, tu vas devenir maigrelé. Allons. Bois donc cette goutte de lait, je t'en prie. Bois, mon petit chat. Bois. Non, je ne veux pas de lait. Et moi, je veux que tu le boives. Et moi, je ne veux pas. Et moi, je veux positivement non. Positivement, si. Positivement, je ne boirai pas. Alors, c'est que tu ne m'aimes pas. Si, je t'aime. Positivement, tu ne m'aimes pas. Positivement, je t'aime. Ce n'est pas comme ça qu'on aime. Comment est-ce alors ? En tout cas, pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu as donc à beugler comme ça ? Je ne suis pas sourde. Allons, viens, faisons la paix, fais-moi un petit béco sur le nez, tu veux pas ? Alors viens, que je te fasse un petit béco sur le nez, mon petit chat. Dis miaou à ta petite chatte. Miaou ! Aïe ! Je peux le faire encore une fois, miaou ! Viens ici, mon petit chat, que t'arraches le nez avec les dents. Miaou, bois cette goutte de lait, miaou, j'ai assez ! Je ne peux pas continuer à vivre entre une grand-maman femme d'intérieur, un grand-papa d'avant-garde. Miaou, mon organisme refuse à les supporter. À qui la faute? À toi.
À moi? Et pourquoi ça?
À qui c'est le grand-papa et la grand-maman? Tais-toi et les petits rideaux et le lait. Et qui est en train de s'embourber dans le marasme de la petite bourgeoisie? C'est moi.
Pensez donc. Il s'embourbe dans le marécage de la petite bourgeoisie et moi. Est-ce que je ne m'embourbe pas? Qui a été le premier à raconter des histoires?
Ma petite Lyudmila, nous allons bâtir une vie nouvelle. Ma chérie, tu seras un prototype de compagne pour la vie. Ma chérie par-ci, ma chérie par-là. Et je te lirai des livres, je te conduirai au club. Où sont-elles toutes ces belles promesses?
Qu'est-ce que c'est devenu tout cela, je te demande, si t'oubliais. Ma petite Lyudmila, recousse ce bouton à ton petit Vasya. Ma petite Lyudmila, donne du lait à ton petit Vaska. Ton petit chat veut faire dodo. Miaou, le petit chat veut du lolo. Miaou.
Et il s'en occupe bien de faire de... Ah, si on en est là. Où vas-tu? On te demande pas ton avis.
Mon petit chat, voyons, viens, qu'on fasse la paix. Alors, fais-moi un petit béco sur le nez, tu m'embêtes!
Si tu veux un béco sur le nez, demande-le à ton grand-papa d'avant-garde. Du côté de l'autre couple, c'est-à-dire Abraham et Tonya, les choses ne vont guère mieux. Très vite aussi, ils en viennent à se disputer.
Là, ça commence par la lecture d'un livre de théorie politique. Alors, Tonya lit le livre qu'on leur a prêté pour quelques jours.
Les périodes économiques de l'histoire. Le tracé du schéma du développement économique de l'humanité est encore loin d'être terminé, je pense.
J'avalerai un bœuf.
Quoi? Rien. Sans nous arrêter aux essais antérieurs. Nous allons passer à l'étude de l'un des plus récents travaux sur ce sujet, l'ouvrage de l'économiste allemand Karl Bücher.
Kuznetsov a assez!
Je n'en veux plus de Karl Bücher. Ce que je veux, c'est un énorme morceau de pain et un bout de viande de la même dimension. C'est une omelette grandiose de moins 6 ou 7 œufs, c'est du lard, c'est du beurre, c'est du lait, des matières grasses, des vitamines, des concombres.
Tonieska, tu es ma femme malgré tout.
Eh bien, je te le déclare en termes purement concrets, je veux bouffer.
Abraham ne crie pas.
Tu as du mariage, une conception vraiment féodale.
Une conception féodale, la voilà qui m'apprend mon ABC d'histoire politique.
Chut! Qu'est-ce que les voisins vont dire?
Et les voisins, ce n'est pas une conception féodale?
Et quand les derniers pantalons du mari sont déchirés quand il n'y a personne pour la cour, c'est aussi une conception féodale, peut-être?
Ah, c'est comme ça.
Elle se lève et met son manteau. Où vas-tu?
Je ne suis pas obligé de te rendre compte de mes actes.
Tonieczka, Tonieczka, allons, allons, lisons, laisse-moi.
Laisse-moi aller retrouver mon calme.
Bon, étant donné que ce n'est pas une pièce à la psychologie très complexe, on se doute bien que finalement, chacun va réaliser qu'en réalité, il était fait pour être marié avec le conjoint ou la conjointe de l'autre, et les choses vont finir par s'arranger. Après bien des hésitations, parce que quand même, lutte des classes à part, ils ont conscience qu'ils risquent de blesser leurs conjoints respectifs. Et ça, l'histoire pourrait tourner en rond pendant assez longtemps, jusqu'à ce que, et alors là, c'est assez amusant quand on le replace dans le contexte soviétique.
Flaville, l'organisateur du parti, réalise ce qui se passe. Et au bout d'un moment, il leur dit, bon, ça suffit, arrêtez vos bêtises. Courez vous faire enregistrer chacun avec sa chacune et allez de l'avant. Une phrase qui revient souvent. Embrassez-vous, embrassez-vous, la révolution n'en souffrira pas. Effectivement, la révolution n'en a pas beaucoup souffert, si on en croit l'évolution de l'URSS. Ce qui est intéressant, c'est que, finalement, la personne qui dénoue cette espèce de situation inextricable, c'est quand même le représentant du parti. C'est quand même le parti, quelque part, qui est le grand sauveur des deux couples. Et, comme dirait Flaville, la révolution n'en souffrira pas. Je vous demande de bien vouloir écouter un des airs sans doute les plus connus de la musique populaire russe, Kalinka, par Ivan Rebrov, et je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté.
Sad yagoda malinika malinika maya kalinika 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 maya sad yagoda malinika malinika maya herti okrasha babavisa dosha Kalina, 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 Kalina